L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM qui navigue, ou plutôt qui aimerait naviguer, parce que pour l'instant le navire est un peu empêché, mais il n'empêche que c'est une belle aventure, que celle de Céline Hirondelle, que notre invité va partager avec nous aujourd'hui. Il sera question des relations entre l'humain et l'océan, entre fascination et crise. Il sera question de notre planète très bleue, de récits multiples, d'expéditions, mais aussi d'une goélette de 12 mètres, de sa vie concrète. Un beau projet dans LEM qui n'est pas à l'abri des coups de tabac, peut-être pas non plus des coups de blues. Pour nous le raconter, Louise Rass a mis pied à terre. Le micro, elle connaît, elle en a un aussi. Bonjour Louise.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous refaire tout l'historique, enfin pas trop longtemps, de Céline Hirondelle, nous dire quand ça a commencé, pourquoi?
Alors, Céline Hirondelle, ça a commencé en 2019, au printemps, à Brest. On était un petit groupe de collègues, d'amis, qui travaillaient autour de l'océan, du nautisme, de la voile, de plein de supports différents, de la communication, du graphisme, de l'illustration. Et on voulait tous travailler ensemble autour de l'océan. Et en même temps, est arrivée à Brest Hirondelle, donc notre goélette, qui attirait beaucoup de gens aussi, qui nous embarquait un peu, qui a créé une synergie indépendante de notre volonté.
Et c'était donc, la vôtre, la goélette, enfin, c'était...
Oui, exactement. Et avec mon compagnon Aurélien Martin. Et donc, en même temps, il y a eu le bateau, il y a eu une volonté et ça a émergé pour en faire un bateau qui porte le projet.
Et alors, quel est-il ce projet?
Et donc,
à
le
la
projet,
base, ouais.
C'était de créer des contenus de sensibilisation à une relation plus durable à l'océan. Donc, à faire des expéditions en partant sur cette goélette avec des créateurs de contenu pour dédier l'entièreté de nos expéditions et de notre temps à la création d'outils de sensibilisation et à la diffusion de ces outils. Et pour faire ça, on voulait aussi essayer de suivre au mieux les recherches en sciences cognitives et en sciences de la communication, enfin recherches en communication autour du changement climatique, en se disant, bon, ce serait intéressant. Souvent, la sensibilisation, c'est un peu un à côté. On le fait en plus d'autres missions. Et donc, on va avoir des biologistes qui sont en train de faire de la sensibilisation, mais qui ne savent pas forcément faire et surtout qui ne sont pas forcément en lien avec les sciences cognitives, qui n'appliquent pas forcément ce qui se fait dans d'autres domaines de recherche. Donc, on voulait avoir une méthodologie un peu interdisciplinaire et essayer d'appliquer concrètement ces consignes-là. Donc, c'était de parler du niveau local, de quelque chose qui se passe en ce moment, dans le temps, donc pas dans 50 ans, dans 200 ans, mais bien aujourd'hui. Et utiliser aussi le témoignage, montrer des vrais humains auxquels on peut s'identifier. Et pas que des experts, pas que des chiffres, pas que des espèces, mais bien la nôtre.
Donc, du vécu, quoi, en fait, c'est ça?
Exactement.
Le vécu du changement climatique ou de la perte de la biodiversité dans l'océan, c'est ça?
Exactement. Et donc, on a voulu faire ça, donc créer ces expéditions qui nous permettent d'aller collecter des témoignages sur les littoraux, d'embarquer à bord aussi des créateurs de contenu, qu'ils soient artistes, vidéastes, photographes, illustrateurs, musiciens, de plein de formats différents, game designers, enfin voilà, il n'y a pas de limite, pour ensuite créer des choses qui parlent de notre lien à l'océan, qui parlent de l'imaginaire de l'océan, de l'avenir de l'océan, de nos pratiques, des difficultés, ce qui nous empêche de changer de comportement, ce qui, au contraire, nous pousse à changer de comportement. Toutes ces relations-là, sur plein de thématiques différentes au niveau local.
Et vous aviez déjà des objectifs géographiques, enfin, vous dites expédition, mais est-ce que vous saviez déjà où vous vouliez aller et pourquoi?
Alors, quand on avait construit le projet, la première expédition, on voulait agir au niveau local, donc on s'était dit une expédition autour de l'Europe du Nord-Ouest. Donc 10 pays, en passant par l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Écosse, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, enfin voilà, tous ces pays. Et la France, évidemment, la Bretagne, et sur quasiment un an. Et donc on s'était dit que ce serait très intéressant parce qu'il y a plein de façades maritimes assez différentes, d'autres qui ont des similitudes, et rencontrer plein de populations différentes, ça permettra peut-être de faire émerger des idées, qui partager des témoignages au-delà des frontières, mais toujours assez locales, chez nous en Europe. Et une semaine après notre départ, il y a eu le premier confinement.
Donc alors, on a été vous étiez parti en mars, quoi, 2020
le 6 mars.
Oh là là.
Ah ouais. Le 6 mars 2020. Donc, c'était
vous étiez en route vers quoi, en fait, là
Alors, on devait faire une escale à Concarneau pour lancer notre podcast de l'expédition. Et ensuite, on avait quitté Concarneau, on faisait route vers l'Angleterre. Et la météo nous a fort heureusement arrêtés au Guilvinec, où on a appris que la France se confinait. Donc, on n'est pas parti en Angleterre.
Ouais.
Voilà. Merci la météo.
Alors après, on s'est déconfiné. Qu'est-ce que vous avez pu faire quand même? Vous avez pu naviguer un peu
Totalement. Bon. Totalement. Pour le confinement, ça a été l'occasion de se reposer tous, parce qu'un départ d'expédition sur un an comme ça, c'est quand même assez intense. Et donc, on s'est posé, on a pris un peu de recul et on s'est dit, bah, au final, nous, on voulait travailler sur le niveau local. Et
vous êtes tous bretons dans l'équipe, à peu près, quoi.
Breton, non, ouais. Plus ou moins. Il y a pas mal de Bretons. Après, on est aussi pas mal de gens d'ailleurs qui aiment particulièrement la Bretagne.
D'accord.
Mais d'adoption.
Ok.
Et donc, on s'était dit quoi de plus local que rester en Bretagne. En plus, si jamais il y a des confinements régionalisés pendant l'année, ça permettra de continuer notre activité, de poursuivre, de pas se retrouver arrêté encore une fois. Que c'est un territoire quand même particulièrement marin. Enfin,
Bah oui, et puis surtout le Finistère, qui est le premier département en kilomètres de côte, en tout cas.
Exactement. Donc bon, c'est très ancré aussi historiquement, socialement, économiquement. Donc, il y a beaucoup de liens. Et pourquoi pas, et c'est très local. Donc, allons vers du très local. On a proposé une expédition de Nantes à Saint-Malo sur 5 mois, où on s'est arrêté dans 24 ports environ. Et on a fait plus de 80 interviews sur les 5 mois, et avec des productions qui sont encore en train d'être créées. Donc, parce qu'il y a certains où il y avait un travail sur un temps très très long.
Donc, ah oui, par exemple, c'est-à-dire
Un documentaire fiction radiophonique sur la pêche en Bretagne, sur la filière pêche, avec un artiste, Esteban Richard, et une journaliste, Léa Charon, qui travaillent ensemble, qui ont fait un travail d'interview sur toute la filière pêche en Bretagne et qui ensuite en font une fiction pour essayer d'éclairer sur les défis de la pêche aujourd'hui et répondre à plein d'interrogations à travers la fiction documentaire. Donc ça, c'est un travail incroyable,
oui, énorme.
Ouais, ouais. Énorme. Donc, on espère que ce sera prêt pour décembre. Mais voilà, donc on a plusieurs choses au long cours comme ça qui sont beaucoup plus longs à mettre en place. Et tout au long, on diffusait aussi les épisodes de podcast et on faisait des petits événements, des cafés-discussions, dès qu'on pouvait se retrouver pour faire quelque chose.
Mais ouais, ça, vous animiez les ports où vous vous arrêtiez aussi, quoi. Enfin, vous essayez.
Assez rarement l'année dernière, parce que les regroupements n'étaient pas...
Oui, c'est vrai, c'était pas facile.
Non.
C'était l'idée au départ, en tout cas, d'animer, enfin,
de
créer
proposer aussi,
quelque chose.
Des cafés-discussions, ce genre de choses. Donc, pour ramener l'océan, on avait commencé aussi à Brest avec un format de pub quiz autour de l'océan, ce qui a connu un fort succès, parce que notre public cible, en fait, dans l'association, c'est les 16, 18 à 35 ans environ. Parce qu'ils sont souvent délaissés par les associations environnementales, parce qu'on met la priorité à l'éducation, au scolaire, donc plus jeune. Et après, une fois qu'on devient plus grand, on a plein de vraies choses de la vie qui rentrent en jeu. Donc on a le bac, on a les études supérieures,
ouais, on n'a pas le temps.
Le début de la vie professionnelle, on ne va pas en musée, on ne va pas en aquarium, on n'a pas le temps pour ce genre de bêtises. Et donc on essaie d'apporter ce genre de bêtises ailleurs, et notamment à travers des pub quiz, des formats qui peuvent être un peu décalés.
Donc c'est des quiz au pub, c'est ça?
Oui, exactement, avec comme, des pichets de bière à gagner.
Comme ça se pratique outre-Manche, en effet, c'est très sympa. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant que ça n'existe pas plus que ça en Bretagne. On n'a pas assez de pubs, sans doute. Ouais.
Je ne sais pas.
Vous avez lancé ça, en tout cas. Et les créateurs de contenu qui étaient à bord de cette phase donc, des 24 ports de cabotage, en fait, c'était quel profil? Vous avez dit journaliste, documentariste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
C'était très varié. L'année dernière, on a eu une illustratrice de BD qui, désormais, nous a rejoint en service civique. Donc, aussi des engagements parfois dans la durée. On a eu un duo de journalistes, mais un dessinateur de presse avec un journaliste de presse écrite, un photographe, de la vidéo aussi, une violoniste. Enfin voilà, c'était assez varié cette année aussi. C'était un peu plus d'audio cette année, mais assez varié. Il n'y a pas de profil type. Dans l'ensemble, c'est des personnes qui ont envie de découvrir l'océan, qui ne le connaissent pas forcément, qui ont envie de participer à un monde plus durable, mais ça...
Ouais, c'est pas forcément des militants
comment faire,
écologistes.
C'est pas forcément des militants. Certains, si, d'autres, moins. C'est souvent moins de 40 ans, entre 18 et 40 ans, on va dire. En général, professionnels de leur domaine. Donc, ça, c'est leur point commun à tous, c'est qu'ils sont tous professionnels dans ce qu'ils font. Mmh. Et donc c'est ça aussi qui apporte beaucoup de qualité dans les productions qu'on va voir sortir. Et s'ils ne sont pas professionnels dans le format qu'ils sont en train de faire, on met tout en œuvre, et eux aussi, pour trouver des personnes qui pourront les accompagner sur cette création.
Et là, en fait, donc ils n'ont pas fini leur production, certains, j'imagine. Enfin, il y en a, il y a pas de, si il y a les podcasts qui sont finis, on va en reparler. Mais est-ce qu'il y a d'autres productions qui sont terminées
Oui, on a eu par exemple un écrivain l'année dernière. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais qui lui est du registre des fictions vampiriques.
Ah bon.
Oui.
Et mais donc, il a trouvé un lien avec l'océan.
Exactement. Donc il a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Chant de Perséphone, avec des sirènes vampires qui se retrouvent dans des situations très complexes à cause d'enjeux environnementaux et de dégradation des écosystèmes. Donc c'est essayer de faire le lien, d'emmener vers d'autres publics, vers d'autres univers. Et puis c'est aussi un espace, un peu le bateau, c'est comme un petit laboratoire de création d'outils de sensibilisation. Et après on essaie de les tester et de voir si le public accroche sur tel format, si ça c'est assez parlant ou pas. Voilà, donc c'est l'occasion d'essayer des choses où dans la vie quotidienne ou dans notre travail respectif, on ne pourra pas forcément... mettre en œuvre parce que ça sort de l'ordinaire, parce que on ose quelque chose qu'on n'est pas vraiment certain si ça va fonctionner ou pas, mais on essaye.
Et en termes de thématiques, vous avez parlé, alors bon, bien sûr c'est l'océan, c'est l'écologie, mais vous avez parlé de la pêche. Est-ce qu'il y a d'autres sous-thématiques qui sont ressorties
Alors une thématique qui est beaucoup ressortie, parce qu'après on essaie de pas avoir de thématique à l'avance quand on va chercher des interviews et des témoignages sur les côtes, on essaie de voir aussi ce que les personnes nous disent, et donc c'est aussi elles qui nous guident un peu sur les enjeux. Et une qui est ressortie très très vivement, c'était la gentrification du littoral et donc toutes les à la fois dégradations environnementales qui en découlent, mais aussi la hausse de prix.
Les résidences secondaires,
la saisonnalité, même pour l'emploi, où il y a de plus en plus de personnes qui sont dans des situations précaires parce qu'elles ne peuvent pas travailler toute l'année sur leur lieu de vie qui est la façade maritime, le littoral, et qui en même temps se retrouvent à aller de plus en plus à l'intérieur des terres, à être déconnectées d'un certain nombre d'enjeux maritimes auxquels ils pouvaient être très sensibles parce qu'ils y vivaient aussi.
Et là, ils ne peuvent plus y vivre parce que c'est trop cher, en fait.
Exactement, et qui se retrouvent à, du coup, prendre plus la voiture, à devoir changer aussi tout leur mode de fonctionnement. Enfin, il y a plein de choses qui en découlent. Et ça a été une thématique récurrente tout autour de la Bretagne. Ça a été cette année, on a lancé une seconde expédition de Hendaye à Lorient. Et sur toute la façade, on nous a parlé de cette problématique. Et donc ça aussi, ça fait partie des sujets qui vont sortir de l'escale à Douarnenez l'année dernière. On avait un duo de journalistes qui sont en train de faire une BD en format story sur Instagram qui raconte un peu la gentrification du littoral et les enjeux et leur travail d'enquête là-dessus.
En partenariat, je suppose, avec le collectif Droit à la Ville de Douarnenez, avec... qu'on connaît aussi sur Radio Évasion. Oui, bah c'est ça. En fait, vous travaillez avec les forces vives locales. Oui. J'imagine que vous avez travaillé avec pas mal d'associations, peut-être, du littoral ou,
En tout cas, on les rencontre. On ne travaille pas forcément ensemble, mais en tout cas, elles nous renseignent, elles nous apportent beaucoup d'éléments. On a plein de liens. C'est toujours très, très riche.
Et alors, parlez-nous de cette goélette, qui est un personnage de l'histoire, quand même. C'est important. Enfin, parce que vous vivez à bord quand vous avez fait votre cabotage, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et donc, après, les artistes qui viennent à bord ou les créateurs qui viennent à bord viennent en moyenne 2 semaines, 2 à 3 semaines, sur le temps d'une à deux escales, pour créer, pour découvrir ce bout-là de la côte. À bord, on peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Pour être dans des conditions confortables. Et donc ça, c'est très peu, en fait, si on regarde le nombre de bannettes sur un bateau moderne de cette taille-là, donc de 12 mètres, 12 mètres 50. Sur un bateau moderne, on pourrait loger facilement 8 personnes ou 10 personnes.
Et, oui.
Et là, on peut être que 6, ce qui est formidable pour ce qu'on fait, parce que ça nous laisse beaucoup d'espace les uns aux autres. Et donc, pour pouvoir travailler, pour pouvoir... Parce que notre table, en fait, la table qui est dans le carré, donc un peu le salon du bateau, elle nous sert pour le petit-déj, pour travailler le matin, pour manger le midi, pour découper les légumes, pour jouer à des jeux le soir. Enfin, ça sert à tout. Donc, il faut que chacun ait de la place et qu'on ne soit pas trop nombreux, qu'on puisse tous travailler ensemble.
Parce que Hirondelle, donc la goélette, elle date de quelle époque ? Enfin, elle ressemble à quoi, en gros ?
Elle ressemble à quoi ? Alors, elle ressemble à la pointe de la technologie du début 20e.
Ah oui, donc, d'accord.
Elle ressemble à ça. La personne qui l'a dessinée et l'a construite s'appelle Jan Bakker. C'est un Néerlandais habitant dans le Doubs avec sa femme et qui était absolument passionné de l'architecte américain R. H. Hoff. Donc un architecte qui est à peu près de la même époque les deux grands yachts qui sont à Brest, la Mariquita et Moonbeam. C'est un contemporain d'eux, mais côté Amérique.
Et c'était un architecte naval, quand même.
Architecte naval américain, début 20e.
Donc, ces gens dans le Doubs, qui sont assez loin de la mer, là, on va le dire, ils ont totalement construit ce bateau, quoi.
Exactement. Ils l'ont dessiné en étant inspirés par cet architecte-là, parce que les plans étaient beaucoup trop chers. Donc, ils se sont dit, bon, ben, je suis ingénieur, je peux très bien... Je vais apprendre l'architecture, je vais dessiner mon bateau. Ils avaient déjà énormément navigué, ils venaient de familles de marins aussi, donc ça aide beaucoup dans ce genre de projet. Uh-huh. Et en fait, le Doubs, c'est là qu'il y a le canal qui passe du Rhône au Rhin. Donc quand on veut relier la mer du Nord à la Méditerranée, on passe par le Doubs.
Donc on peut naviguer dans le Doubs.
Exactement, sans les mâts et les voiles.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est quoi ? Il y a deux mâts, trois mâts en goélette ?
Il y a deux mâts sur ce bateau-là.
Et c'est un bateau qui est tout en bois
Exactement, oui. C'est tout en bois, mais la coque est recouverte de fibres de verre. Et donc, ce qui fait que le bois de la coque n'a jamais touché l'eau. Et donc, ça demande moins d'entretien sur la coque, ce qui est déjà bien, parce que tout le reste est en bois massif et demande beaucoup d'entretien.
Et c'est bien le problème, voilà, exactement. Que vous avez un problème sur un mât, c'est ça ?
Oui, totalement.
Qu'est-ce que vous avez,
on a appris cette année, pendant notre campagne, qu'on avait un champignon qui avait infecté le mât. Et donc, on ne sait pas exactement quel est ce champignon, mais en tout cas, il grignote, il mange, il s'est installé. Et on ne sait pas jusqu'où ça va, mais a priori, il y a de fortes chances. Dans tous les cas, il va falloir qu'on retire le mât et qu'on voit jusqu'où va ce problème. Si on peut, il faudra réparer, donc couper à moitié et remettre du bois sain. Et sinon, il faudra remplacer le mât. Donc, c'est une opération...
Donc, ça peut être coûteux, en fait. Enfin, ça peut aller coûteuse. Jusqu'à... Si vous devez remplacer le mât, ça va vous coûter combien, à peu près ?
Ce sera entre 5 et 10 000 euros, donc, avec toutes les manutentions. Donc, c'est pas rien.
Parce que jusqu'à présent, le budget de l'expédition, enfin, les budgets, c'était financé par comment
Alors, on a eu l'appui de plusieurs fondations, notamment la Fondation Banque Populaire Grand Ouest et la Fondation Oceanopolis Act. Donc, ils nous ont énormément soutenus et ont permis d'avancer. On avait aussi, avant la première expédition, lancé une campagne de crowdfunding, donc financement participatif, où on avait récolté un peu plus de 8 000 euros aussi, ce qui nous avait permis de partir, tout simplement. On a régulièrement des dons aussi, qui nous aident énormément. Depuis cette semaine, on est aussi référencé sur le moteur de recherche Lilo. Donc, si jamais il y a des auditeurs
si on utilise
qui sont
le
sur
moteur,
Lilo, ça vous pouvez utiliser ce moteur de recherche et reverser des gouttes d'eau à l'association. Et ça ne vous coûte rien. Et c'est l'argent de la publicité qui nous reviendrait.
D'accord.
Et aussi, quand on a appris pour le champignon dans le mât, et parce qu'en plus, on a enchaîné un peu les coups au moral cette année. Au port de Bordeaux, on a été cambriolés pendant notre sommeil. Et on a perdu un ordinateur, un casque, un téléphone, plein d'objets de travail. Donc, assez coûteux tous, évidemment. Et donc, suite à ça, on a lancé aussi une cagnotte solidaire pour que toute personne qui le souhaite puisse contribuer et nous aider, parce qu'on attend beaucoup de réponses d'appels à projets de cette fin d'année. Avec la situation économique et sanitaire, il y en a beaucoup qui ont été retardés. Donc, on est en attente sur tous les fronts. Et donc, pour nous aider à tenir en ce moment, on a lancé ça.
Sur quelle plateforme, la cagnotte ?
C'est sur Hello Asso.
Très bien, c'est comme Radio Évasion. Hello Asso, c'est toujours précieux.
Oui.
Mais vous ne vous arrêtez pas pour autant, en fait, même si vous avez des problèmes de navigation. Alors là, vous êtes un peu obligé de ne pas naviguer, en gros. Alors, le bateau donc, est à Lorient. Pourquoi déjà ? Parce qu'il va y avoir un événement, c'est ça ?
Exactement. Donc, le week-end du 9 et 10 octobre, on sera présent au Festival des Aventuriers de la Mer à Lorient, qui regroupe plein d'associations, de projets, de bateaux, d'intérêts pour le temps de 4 jours de festival. Donc, ça part du jeudi au dimanche. Et nous, on y sera avec Hirondelle, qui sera disponible, enfin, disponible, non, visitable.
Voilà, c'est ça, ouais.
Voilà, et on sera présent aussi sur des stands et pour la projection d'un film aussi sur la pollution sonore.
C'est un festival pas spécialement de cinéma, quoi. C'est un festival.
Non, c'est pas forcément du cinéma. Il y a des projections de films, il y a des projets. C'est un festival un peu de discussion, de rencontres, de découvertes. Il y aura des ateliers d'apprentissage de la godille, des projections de films sur l'océan, sur des aventuriers. Il y aura plein de bateaux à visiter, que ce soit le Biche, le Pendwick, enfin voilà, des grands et beaux bateaux.
Et la pollution sonore, là, le thème qui vous intéresse en l'occurrence, c'est parce que vous avez constaté cette pollution sonore en mer, vous avez travaillé là-dessus. Enfin, j'imagine que c'est en mer, enfin, pollution sonore sous-marine, je suppose.
Exactement, exactement. Alors, c'est parce qu'on a eu un duo aussi de biologistes marins l'année dernière, dont l'un fait de la vidéo et l'autre fait du violon, qui ont voulu faire parler du sujet de la pollution sonore marine.
Et qui donc, est un vrai sujet.
Totalement. Et donc, qui ont fait un petit documentaire d'une dizaine de minutes sur ce sujet et qui sera projeté pendant le festival.
Mm-hmm.
Donc, après, c'est vrai que c'est quelque chose... nous, typiquement sur le bateau, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte quand ils arrivent à bord, surtout si on va dans un mouillage ou dans un endroit où c'est très, très calme, on n'entend plus de son. Et... d'un coup, on commence à entendre un bourdonnement au loin et on se demande tout ce que c'est. On commence à sortir, à regarder. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'était un Zodiac ou un bateau à moteur, mais qui était très, très loin. Et qu'on l'entend de l'intérieur de la coque, mais à plusieurs kilomètres. Et
donc, sous l'eau, les animaux entendent ces bruits aussi.
Totalement. Voilà. Et sauf que, contrairement à nous, la plupart des animaux marins se déplacent aussi grâce au son. Donc, ils en ont vraiment besoin. C'est ça qui leur permet de se reproduire, de manger, de se mettre en sécurité, de choisir leur route, enfin plein de choses.
Ouais, donc la pollution sonore humaine peut les perturber.
Totalement.
Et du coup, puisqu'on est dans la science, vous avez aussi une intervention à la Fête de la Science à Brest, prévue. Donc là, c'est encore plus... C'est bientôt, non ? C'est ça ?
C'est le même week-end.
D'accord, donc c'est... 10 octobre, c'est ça ?
Exactement, 9 et 10 octobre. Le 9-10 octobre, aux Capucins, aux ateliers des Capucins à Brest, où on va tenir un stand aussi pour montrer différentes productions, pour rencontrer des bénévoles, pour échanger si vous avez des questions sur l'océan, sur vos pratiques, sur quoi que ce soit. On sera là.
Très bien. Et sur Radio Évasion, nous aurons le plaisir de diffuser certains des podcasts que vous avez réalisés. Alors, combien vous avez réalisé de podcasts et puis avec qui, en gros
Aujourd'hui, on est à une trentaine d'épisodes, il me semble. Il y en a encore qui continuent à sortir. Et avec qui, c'est pareil, on n'a pas vraiment de profil type. C'est très, très varié. On a interviewé, par exemple, une maraîchère à Loctudy, qui fait du maraîchage, mais qui est sur le littoral. Donc, qui a un impact ou qui dépend de l'océan à plein de niveaux, qui fait attention à quel type de produit elle utilise, qui nous expliquait qu'elle avait transitionné, qu'elle arrêtait de vendre ses patates, par exemple, dans des filets plastiques, parce qu'un jour, elle a retrouvé sur la plage, en allant se baigner, un filet des pommes de terre de sa ferme. Et que ça fait mal quand même, quand on voit que, en fait, le pollueur, c'est toi, c'est douloureux. Donc, elle avait tout changé. Elle s'était énormément remise en question. On a des chercheurs, par exemple, du Marinarium ou de l'IUM, que ce soit en biologie, en pêche, en sciences politiques ou anthropologie. C'est très varié. Là, un des derniers épisodes à être sorti, c'était avec un pizzaiolo à Bordeaux qui prend grand soin au type de farine qu'il utilise, de sa provenance, sur tous les ingrédients, en fait, et qui travaillent vraiment la panification naturelle des pizzas.
Mais qui se sent en lien avec la mer pour autant.
Mais totalement, parce que pour une pizza, surtout en France, où on met beaucoup de charcuterie, la charcuterie, elle vient d'où ? Et quel est l'impact de cette charcuterie sur l'océan ? Et autant, parfois, on se pose la question quand on va acheter directement de la charcuterie, mais de là à se poser une question quand on mange une pizza dehors, on va pas forcément aller enquêter sur la provenance de chaque élément de tout ce qu'on fait. Et donc là, ben, y a des personnes comme ça qui expliquent toute leur démarche, qui expliquent pourquoi ils font ça. Et on essaie de mettre en évidence ces liens à l'océan pour montrer que même depuis l'intérieur des terres, même depuis le doux, on peut protéger l'océan, contribuer à sa protection. On peut faire plein de choix, on peut soutenir un monde plus durable.
Les podcasts de Sailing Hirondelle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Sailing Hirondelle, vous pouvez vous abonner, par exemple, à la newsletter ou aller sur le site internet. Merci Louise Rasse et n'hésitez pas à réécouter cet entretien aussi sur le site internet de Radio Évasion.